Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, c'est sur un métier avec Monsieur Vergriet. Bonjour Monsieur et merci d'être à Radio Grand Ciel pour nous parler de ce métier un peu exceptionnel, écrire, et écrire au service des autres. Alors racontez-nous un peu ça.
Eh bien oui, je suis écrivain et j'écris pour les particuliers. J'écris leur mémoire, leur biographie et ou autobiographie, qui souvent partent d'un itinéraire personnel, mais qui glissent facilement vers, on va dire, des histoires familiales.
Alors, souvent dans les familles, il y a effectivement quelquefois des personnes qui écrivaient le soir un petit journal sur ce qui s'était passé, les enfants, etc. Ou bien des mamans qui écrivent sur leurs gamins. Donc, il y a dans les familles quand même quelquefois ces mémoires.
Exactement. Mais ça n'est pas toujours très intéressant parce qu'il est possible que de trouver des textes de jeunes mères qui parlent de leurs enfants. Mais moi, je vois encore plus loin. Les générations précédentes où, dans les familles où il y a des journaux d'un ascendant, on peine à trouver de quoi se nourrir, parce que c'est souvent la même chose. Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'était l'époque du temps long et lent.
Et oui, où finalement, entre les générations, on refaisait ce que faisaient les autres. Donc, ça n'avait peut-être pas d'intérêt. Et alors là, justement, dans notre monde qui est un monde pressé, un monde où on communique rapidement... dire, prendre le temps d'écrire et d'écrire sa vie, je trouve que c'est assez paradoxal. Alors, expliquez-nous.
Eh bien, justement, on est dans une époque qui est marquée par la vitesse et donc on n'a plus le temps de véritablement communiquer sur le fond. Dispersion des familles, éclatement des familles. Donc, ce à quoi on assiste aussi en réaction à ces changements, ces bouleversements, c'est une demande d'information sur le fond, ce qu'ont été les familles, d'où elles viennent. Et ça, c'est un des points centraux qui intéresse les jeunes générations. On ne s'en rend pas bien compte, mais ce à quoi on assiste, c'est un rajeunissement de la demande sociale. Pendant longtemps, c'était les cinquantenaires qui s'intéressaient à la...
À leurs parents directs,
quoi. Et ce à quoi on assiste maintenant, c'est un rajeunissement. Pendant longtemps, c'était les 25 ans. Et maintenant, j'ai des cas, je ne dis pas que c'est très, très courant, mais j'ai des cas de jeunes de 14, 15 ans qui, après avoir lu l'histoire, les mémoires familiales, qui passent, par exemple, souvent par les poilus, qui sont passionnés de découvrir ce qu'était la guerre 14-18 et puis après ce qu'a été 39-45. Vous voyez, c'est pour eux, c'est une découverte et ils en sont ravis.
Une découverte parce que c'était quand même très violent, effectivement, les mémoires de poilus. Et on a vu cette année, puisqu'on fête le centenaire de la guerre 14-18, c'est vrai qu'on a demandé aux gens d'apporter leurs documents, de faire des recensions. Mais en fait, toutes les histoires ne sont pas aussi, entre guillemets, à poser question ou à être objet de choses qui sont quand même assez exceptionnelles, même si finalement tous les grands-parents ont été touchés par la guerre.
Oui, et directement concernés. Mais bon, c'est vrai que j'ai des cas, par exemple là, je pense à une personne de 92 ans, un homme, qui me dit... à l'issue des travaux, quand je lui remets le texte, qui me dit « Je tiens à vous féliciter de votre travail. C'est poignant, tout à fait dans l'esprit de ce que je voulais. On dirait que vous avez deviné mes pensées. Bon, » cette personne a été dans un stalag en 40-45, s'est échappée au moment de l'arrivée des Russes, en passant par la Baltique, gelée, à pieds nus, moins 30. Vous voyez, bon, donc, et juif d'ailleurs. Et qui n'a jamais été repéré en tant que juif, tout le temps, pendant les 4 ou 5 ans de sa captivité. Mais il ne faut pas seulement avoir un itinéraire ou une histoire exceptionnelle, mais 9 fois sur 10, c'est des gens vraiment super, super intéressants, et qui méritent qu'on parle d'eux. Et j'ai un petit pourcentage de gens qui ont un ego monumental. Et avec ces gens-là, ça ne marche pas. Parce que quand on est dans l'inflation du moi, c'est détestable. Je ne peux pas écrire même 150 ou 100, 200 ou 150 pages sur quelqu'un qui ne parle que de lui.
Ah oui, mais je comprends, je vous crois volontiers. Alors c'est amusant parce que quand j'étais prof d'histoire, j'avais quelquefois des élèves, mais vraiment, qui n'en avaient rien à foutre de l'histoire. Alors, j'avais trouvé le système suivant. Je disais, bon, bah, écoutez, d'accord, je comprends que coefficient, rien du tout, même pas interrogation orale au cas où vous passez l'oral, donc ça n'a pas aucun intérêt pour vous, de façon très concrète. Alors du coup, vous allez écrire l'histoire de quelque chose, de votre famille. Alors demandez, par exemple, le témoignage, j'étais prof il y a 10 ans et plus, le témoignage de vos parents, de vos grands-parents, sur les guerres qu'ils ont vécues. Puis il y avait toujours des élèves qui n'avaient pas vécu la guerre. Alors, je disais, ben non, et ben, vous racontez l'histoire de vos parents lorsqu'ils sont venus en France. Et puis vous racontez, est-ce que ça va compter pour... Ah, j'ai dit oui, bien sûr, parce que ça me paraît au contraire très intéressant. Et alors j'ai eu des histoires et j'ai eu des élèves qui m'ont dit, mais vous savez madame, du coup j'ai interrogé mon père, et du coup ma mère s'en est mêlée, mais je ne savais pas tout ce qu'ils m'ont raconté parce que je devais faire un devoir. Moi, c'était pour le devoir.
Ouais, je comprends.
Et c'était amusant parce que j'ai eu des trucs que je n'ai pas gardés, j'ai eu tort. Mais par exemple, il y avait une fille qui m'a dit... mon grand-père était valet de chambre de Winston Churchill.
Ouais.
Alors, je lui ai dit, ah ben ça, c'est quand même dommage que je n'ai pas gardé ça.
Ouais.
Des histoires aussi de migrants qui venaient et qui, à un moment donné, c'était des trains établi par la radiotechnique ou par des entreprises qui allaient chercher des migrants, par wagon qui était réservé par l'entreprise pour les faire revenir. Et Marocain, justement. Et elle m'a dit, mais à un moment donné, on avait dit que les gens n'avaient pas rendu les petites cuillères du repas alors qu'on allait les fouiller. Mon père, il m'a dit que, son grand-père, je ne sais plus, qu'ils avaient jeté les cuillères par la fenêtre, quoi. Ils s'en étaient débarrassés. Et que du coup, quand il y a eu la fouille, ils n'avaient rien trouvé. Personne n'avait volé de petites cuillères.
Mais voyons, choses...
Tout à fait. Mais c'était amusant parce que je n'aurais jamais pu inventer un trait pareil.
Tout à fait. Mais
et,
oui.
Et ça, c'est très, très...
Et qui a... combien de personnes à Dreux savent que ces gens-là, les Marocains, ont été... emmenés de force, en fait, ils ne sont pas choisis de partir.
Il y avait les visites médicales dans le bled, et puis...
Ils ont été recrutés de force dans le bled.
Ouais, c'est...
Si les gens savaient ça, il y aurait moins... Si c'était dans notre histoire de France, dans les manuels scolaires...
Comment un grand-père peut-il dire « j'ai été recruté de force » Comment peut-il le dire ?
Qu'il n'est pas venu en tant que volontaire.
Oui, c'est ça, qu'il n'est pas venu.
Vous voyez, moi, je tiens pas trop à... c'est pour ça que je n'aime pas trop parler de moi, mais j'ai fait des mémoires de gens très haut placés, ou de gens dans la finance très haut point. La mère du numéro 2 de Pernod Ricard, qui est une famille de... très puissante et très, très riche, eh bien, le grand-père, dans la famille, il avait fait 14-18, et quand il a écrit quelques trucs là-dessus, et quand il en parle, à chaque fois, les batailles décisives, c'est des Noirs qui étaient en première ligne. Et j'ai fait un des adjoints de Leclerc, l'un des deux bras droits de Leclerc, pareil. Ces gens-là livrent leur version de l'histoire, de la grande histoire, alors que ce sont des pages qui sont complètement occultées dans la mémoire collective.
C'est vrai que l'histoire souvent est celle des gagnants, des chefs, et ne s'intéresse pas beaucoup à tous ceux qui sont nos ancêtres, en fait.
Alors, j'aime bien prendre les témoignages des personnes pour lesquelles j'ai travaillé. Une autre personne, une dame cette fois, qui dit « un réel talent, s'agissant de moi, pour
elle
décrire... »
Elle est sympathique, au moins.
Je ne les ai pas forcés, hein. « Un réel talent pour décrire les ambiances. Vos textes me replongent dans mon passé. Cela me procure un bien fou. Je vous remercie infiniment. Désormais, mes enfants se rapprochent de moi. » Vous voyez, c'est court. C'est ce qu'a dit cette personne. Et là où ça devient intéressant, c'est que les jeunes générations ne connaissant pas véritablement leurs parents, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne savent même pas aujourd'hui, hein, qui ne savent même pas ce que fait le père il est dans l'informatique, ah bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, il travaille dans un bureau, c'est pas comme dans les générations précédentes où on était cordonnier, et là on savait exactement ce que faisait le père, puisqu'on le voyait travailler même.
Et ça, il y a aussi le déplacement et le fait d'éloigner le lieu du travail du lieu de vie.
Alors, les auditeurs peuvent se poser la question, est-ce que j'ai quelque chose à raconter? Est-ce que c'est intéressant? Moi, je maintiens que dans tous les cas, c'est intéressant, même si on a une vie, on va dire, entre guillemets, même si on est quelqu'un d'ordinaire. Moi, je préfère travailler avec des gens dits ordinaires qu'avec des stars ou des célébrités. Parce que dans ce cas des célébrités, ça brille sur le papier, mais quand on discute, c'est souvent pas très intéressant. Donc je préfère...
Puis c'est quelquefois un peu mensonger, non?
Oui. Bon, et en fait, ça m'intéresse pas, parce que les gens qui sont plus humbles et qui ne visent pas la reconnaissance du grand public ont des choses à raconter. Et donc moi, l'essentiel de mon travail consiste à collecter la mémoire des derniers témoins d'une vie qui change, qui est en plein bouleversement, et à faire en sorte que ce soit intéressant, que ce soit passionnant pour les jeunes générations. Les jeunes générations lisant de moins en moins, il faut les appâter avec l'histoire de leur famille. Les petites recettes, c'est de faire en sorte qu'à chaque chapitre, il y ait un rebondissement et qu'on ait envie de poursuivre la lecture jusqu'au bout, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et bah, je pense à Michel Tournier, là j'adhère complètement à ce qu'il a prononcé peu de temps avant sa mort, c'est il a dit « j'écris pour être lu ». Et moi je me range dans cette catégorie... d'auteur. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on pourrait appeler de la prose au kilomètre, mais de faire en sorte que ce soit lu et que ça génère un enthousiasme.
Maintenant je m'en souviens, c'était toi grand-père qui me conduisais sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi grand-père qui venait me prendre par la main. Je ne savais pas que toute mon enfance était restée là-bas au pays des vacances, abritée sous le toit d'un joli coin de France. Maintenant je m'en souviens, c'était toi, grand-père, qui me conduisais sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi, grand-père, qui venait me prendre par la main. Tous les contes de fées qui dorment dans ma tête, tu me les as donnés comme un cadeau de fête. Lorsque les soirs d'été, tu devenais poète. Maintenant je m'en souviens, c'était toi, grand-père, qui me conduisais sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi, grand-père, qui venait me prendre par la main. Au temps des premiers pas, tu te faisais patience, tu m'apprenais la vie comme on apprend la danse. C'est vrai qu'auprès de toi, j'avais beaucoup de chance.
Eh bien, avec Monsieur Vergrit, nous évoquons ce métier d'écrivain privé, c'est-à-dire au service de la mémoire d'un certain nombre de personnes. Alors, qu'est-ce qui pousse, justement, les personnes à dire « je veux que vous écriviez mes mémoires, que vous écriviez quelque chose pour moi ». Quelle est la commande, souvent, et qu'est-ce qui les pousse ?
Alors, qu'est-ce qui les pousse concrètement ? C'est... pour beaucoup, même pour une très grande majorité, c'est le souci de transmettre leurs valeurs. Le profil général, c'est que ce sont des gens qui sont plutôt dans le don, le don, ils veulent faire un cadeau aux générations qui suivent de ce qu'a été leur vie, en livrant des conseils, mais sans être long et ennuyeux. Bien souvent, le facteur déclenchant, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même assez fréquent, ce sont des personnes qui sont poussées, non pas par la génération qui les suivent, non pas par leurs enfants, mais bien souvent par leurs petits-enfants, qui leur disent, bah alors, qu'est-ce que tu as fait à telle époque, ou comment ça s'est passé pour toi ?
Comment c'était quand tu étais petit ?
Ouais, les petits-enfants ont du mal à imaginer que leurs ascendants, leurs grands-parents, eux-mêmes, ont été eux-mêmes des enfants. Donc là où ça devient fort intéressant pour eux, c'est de voir, sous forme de livre, voir raconter l'histoire de leurs grands-parents, grand-père ou grand-mère. Vous voyez ? Donc on décrit, l'idée c'est ça, c'est de décrire ce qu'était le quotidien, mêler l'histoire des grands-parents ou des parents à la grande histoire. Donc on fait des va-et-vient entre les choses de la vie et puis la grande histoire qui tout à coup peut pénétrer avec plus ou moins de violence dans l'histoire d'une famille.
Faut quand même oui, penser c'est vrai qu'on évoquait la guerre 14-18, ça elle a broyé toutes les familles quelque part.
Tout à fait. C'est la guerre 14-18, bien sûr, que pas dans tous les cas, mais bien souvent j'en parle. La guerre 14-18, c'est les hommes qui quittent la ferme et qui laissent madame aux manettes. Madame n'ayant pas été habituée à gérer une ferme, se retrouvait souvent en grande difficulté. À la guerre suivante, 39-45, ce qui revient en boucle, c'est l'exode. C'est quand même des millions de personnes qui ont dû quitter très rapidement leur foyer et qui ont été jetées sur les routes de France. Vous voyez, les guerres ont déplacé des populations. C'est le premier fait le plus marquant de l'histoire des guerres du XXe siècle, c'est les déplacements de population. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés ailleurs, loin de leur lieu de naissance, et qui ont été amenés à se reconstruire dans des conditions qui leur étaient a priori pas favorables. Voyez. Et donc ça, c'est très intéressant pour les jeunes générations de montrer que vous avez 3 Français sur 4 qui sont de souche provenant d'enfants, de au-delà de la France.
Après, je vais vous demander qui s'adresse à vous. Dans le qui, c'est pas simplement les personnes, mais c'est qu'est-ce qui les pousse à vouloir laisser une trace. C'est peut-être aussi la demande. Enfin, grand-mère raconte comment c'était de ton temps.
Oui, la question c'est qu'est-ce qui motive quelqu'un à vouloir faire écrire ses mémoires.
Voilà.
Dans certains cas, pas aussi majoritaire, mais ça existe, des gens qui ont été, il s'agit de gens qui ont été bousculés par la vie et qui cherchent à être revalorisés. Et dans ce domaine, je crois apporter satisfaction dans la mesure où on explique comment tel drame familial a pu, comment ça s'est passé et comment on peut l'expliquer.
Vous voyez, c'est une espèce aussi de thérapie, là.
Il y a cette dimension-là. Mais restons prudents. Je ne m'engage pas trop dans cette direction de la psychothérapie. L'intérêt étant, sur le fond, de se livrer, et ça c'est pour moi un point capital, l'idée c'est de se livrer à ce que j'appelle un exercice d'admiration, qui est dans tous les cas très discret. On ne marque pas cette admiration d'une manière béate, benoîte, c'est il s'agit de montrer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de valorisation des individus. Il y a des personnes qui ont vécu de grosses épreuves et qui les ont surmontées. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer, d'aller au centre de l'individu et d'expliquer quels sont les ressorts et les mécanismes qui ont fait que telle ou telle personne se sont sorties de situations difficiles. Vous voyez ? Là, ça devient passionnant.
Ça peut être intéressant, même pour les petits-enfants, de voir que dans des conditions difficiles, on a pu survivre et que, voilà.
Oui.
C'est aussi un témoignage. Et le fait de ce brassage, de ces multiples allées et venues des personnes, j'imagine que ça a dû... Ça transpire dans ce que vous faites. Les allées venues des uns des autres, le fait d'écrire des environnements, mais qui ne sont plus des environnements d'une région ou d'un métier, mais qui sont des environnements plus lointains, parce que maintenant... on a des grands-parents qui viennent d'Italie, qui viennent de Pologne, par exemple, je pense pour les Français d'aujourd'hui qui peuplent le pays, qui viennent.
Mais c'est là où ça
et
devient.
Et en Beauce, qui viennent de Bretagne, simplement.
Oui, oui, mais c'est là où ça devient passionnant parce que la France est une véritable mosaïque, mais beaucoup de gens l'ignorent parce qu'ils ne connaissent pas leurs racines. Et souvent, dans des familles qui se croient de lignée
gauloise,
pour prendre un terme à la mode, découvrent tout à coup, dans leurs ascendants, quelqu'un qui est parti avec son petit sac d'un pays étranger. Et vous parliez de l'Italie, j'ai plusieurs cas, beaucoup de cas, d'ailleurs c'est un de mes centres d'intérêt principaux, c'est comment on se reconstruit après avoir quitté son pays. Et l'immigration italienne, par exemple, ça a été monumental. Et donc, grâce à mes recherches, j'arrive dans pas mal de cas à reconstituer l'itinéraire des migrants, italiens, par exemple, ou polonais, ou enfin, de tout pays.
Alors, ça veut dire aussi que vous écoutez les personnes racontent, mais ce n'est pas simplement leur ego qui s'écrit quelque part, mais c'est aussi l'environnement, le contexte, et vous faites des recherches pour trouver, pour situer ce contexte.
Oui, oui.
Arrachés à l'esclavage, nous avons trouvé le secret d'un nouvel âge, au parfum de liberté. Arrachés à l'ignorance, nous pouvons choisir de briser tous les silences qui nous ferment la vie. Nous avons brûlé les remparts d'indifférence qui nous tenaient prisonniers, façonnés dans la tendresse, nous forçons la vie à nous tenir ses promesses dans un
J'imagine aussi qu'il y a ce qui concerne les métiers.
Ça, c'est passionnant. Comme il y a une évolution des métiers phénoménale, retracer l'histoire d'un métier, ces prétextes à parler de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Récemment, j'ai fait une famille de polytechniciens où leur ascendant était ouvrier, aide-ouvrier au métro de Paris. Donc, c'était pas ouvrier, c'était aide-ouvrier. Et comme on voit sur deux, trois générations, une ascension sociale phénoménale. Et la génération précédente à celle qui était aide-ouvrier, c'était cordonnier dans un patelin ou perdu dans quel département dans le Nord. Et où dans un petit patelin, il y avait trois cordonniers. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont des métiers disparus. Donc, c'est intéressant de reconstituer, de restituer le passé et de reconstituer l'itinéraire des familles.
Alors là, vous évoquiez un polytechnicien. Est-ce que ce sont seulement des personnes qui sont, entre guillemets, qui ont une ascension sociale évidente, mais... ou est-ce que aussi ça peut être de toutes les classes de la société, on a besoin de se dire ou de se raconter, ou on a envie de transmettre le fait simplement de eh bien, l'agriculture dans le fin fond de la Bretagne, ou bien le fait de... Moi, je sais que la première fois que j'ai vu mon père qui était capable d'atteler des bœufs, je lui ai dit, mais tu sais atteler des bœufs?
Oui, bah, peut-être que c'était la guerre qu'il a appelé ça... Hein.
Donc, voilà, je veux dire, est-ce que pour les gens humbles, il y a aussi la possibilité d'écrire ou de faire écrire ?
Mais bien sûr. De toute façon, je travaille à tous les étages de la société, puisque j'ai fait beaucoup de mémoires de personnes venant de la DAS, dont certains, j'en ai poussé certains à écrire eux-mêmes. Donc, le premier livre les concernant, c'est moi qui l'ai fait, et le second, c'est eux.
Ah bon ?
Eh oui. Et dans certains cas, c'est les gens modestes, bon, je préfère les gens modestes à ceux qui le sont moins, c'est intéressant, j'ai une dame de la DAS, issue de la DAS, qui m'a fait écrire pas loin de 600 pages pour ses enfants, vous voyez ? Pour expliquer ce que c'est que de se retrouver... gamine à la DAS. Et à l'extrême opposé, j'ai aussi fait des mémoires pour des familles qui ont vécu de grandes réussites au niveau national. Et pareil, bon là, c'est aussi très très intéressant. C'est des gens qui ont le souci, certes, de progresser, mais aussi de laisser une trace. D'expliquer dans le détail ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait face aux difficultés, comment ils les ont surmontées. C'est le cas de tout le monde. Voyez. Donc l'idée derrière, les gens qui s'adressent à moi sont des gens qui ont certes des parcours très différents, mais qui ont comme point commun le souci de transmettre leur histoire, leurs valeurs, et de donner des conseils aux jeunes générations discrètement.
Voilà, ils ont quelque chose à dire. Alors, pour terminer, puisque le temps s'achève,
voici les coordonnées de M. Vergriet. Pour les auditeurs intéressés, 17 bis, chemin de Moulincourt à 28410, Bu, c'est au nord de Dreux. Le téléphone est 02 37 82 15 39, je répète, 02 37 82 15 39. J'espère que vous aurez pris autant d'intérêt que moi à cette émission, histoire d'en savoir plus, à retrouver sur le site radiograndciel.fr.
Bonne semaine à tous, au revoir.